Damn, little fuckboy man, you know that I be killing shit.
Yeah, 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 yeah.
Yo, ça dit quoi l'équipage, ça dit quoi la famille, on est retour prochaine semaine, c'est quoi, pas hebdomadaire, on fait ça toutes les deux semaines, vous êtes présents ici avec vous, écouter des épisodes, on va vous faire un petit épisode sur la différence entre ce qui est les chefs et les leaders, c'est un épisode en fait qui nous avait été conseillé par un de nos auditeurs du coup, dédicace à lui, Calvas la menace, vous avez déjà entendu son blase sur la plateforme, tout ça. C'est un bon. Voilà. On est de retour dans tous les cas ici. On est avec Wack. C'est moi. On est aussi le présent, eux aussi ici, pour faire la présence de vous. Il va se présenter lui-même.
Oh, bonjour la famille. Comme il a dit, un dédicace à auditeur et ancien intervenant aussi. Il est venu dans l'épisode de la saison dernière. Là. Ok, Simer pour l'idée en tout cas. Donc comme le collègue a dit, ça va être ça. Aujourd'hui, on va débattre de la différence entre un chef et un leader. C'est parti de toute l'idée, comment il a dit, de base dans le commentaire sur Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à commenter, ça peut se transformer en épisode. Donc le collègue, il a suggéré, vous devez parler peut-être de la mentalité des rois, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qui est commun à tous, à tous les rois, les chefs, soit charismatiques dans l'histoire, qui fait qu'eux, on les retient. Puis, moi, quand j'ai vu son commentaire, je me suis dit, déjà, même si, tu sais, moi, j'aime souvent revenir aux définitions des choses. Et ça fait, je me suis dit, OK, un roi, c'est quelqu'un que tu le caractérises comme un chef ou un leader. Puis de là, je suis parti de, c'est quoi la différence entre un chef et un leader en réalité? Moi, j'ai un avis bien tranché sur la position, tu vois. Donc, moi, je pense qu'un leader, de base, c'est quelqu'un qui a cette caractéristique-là de, dans la différence de gérer les choses, tu vois. Moi, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va gérer les choses avec moins d'autorité, qui va plus mouiller le maillot, comme on dit, qui va être avec l'équipe sur le terrain à essayer d'atteindre l'objectif commun. Et un chef, je le vois comme quelqu'un qui est un peu à distance, qui va agir avec autorité, donner plus d'ordre, etc. Et il y a aussi cet aspect-là de respect, tu vois. Je trouve qu'un roi, c'est quelqu'un... Pardon, je me suis égaré. Un chef, c'est quelqu'un qui sera plus craint par son équipe, tu vois. On parle de roi, donc je peux dire par les gens qui gouvernent, tu vois. Déjà, même là, le lien de gouvernant-gouverné, tu vois, ça crée déjà une sorte de déséquilibre, dans le point de vue de l'organisation des choses. Certes, il y a des leaders, il y a des chefs désignés, mais quand on dit c'est le chef, c'est le roi, c'est le gouverneur, déjà, on parle d'une différence. Si on s'assoit pour chacun donner son avis, les avis n'auront pas le même poids, déjà d'emblée. Alors que quand moi, je m'assois avec quelqu'un que je considère comme un leader d'une équipe, moi, par exemple, je travaille dans un métier, on dit souvent le terme « team lead », parce que c'est des gens qui vont prendre en compte qui savent la réalité de leurs équipes. Genre, ils vont savoir les forces et les faiblesses de chacun, à partir de là, prendre des décisions, en prenant en compte, bien sûr, avec une certaine égalité, les réalités et les positions de chacun. Donc, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui n'est pas craint par son équipe, c'est quelqu'un qui est respecté par son équipe. Quand il vient, on a envie de s'ouvrir à lui, on a envie qu'il vienne nous rejoindre pour nous donner un coup de pouce pour avancer sur une tâche. On aime quand il est là, il bosse avec nous, tout est carré. Mais on sait que c'est la personne référente. Par contre, un chef, quand il vient dans l'équipe, tout le monde se met droit, tout le monde a peur de faire une chose de travers. Tu vois, tu sens tout de suite la différence. Donc déjà, de définition, genre, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Toi, c'est quoi, tu penses? Est-ce que tu vois une différence, les mêmes différences que moi par rapport à ça, ou bien... Je dirais que c'est à peu près la même chose.
Un chef et un leader. Je suis assez d'accord avec ta définition d'un chef. C'est plus quelqu'un qu'un leader, il aurait mis en place pour pouvoir mettre en vigueur les directives que lui-même il a choisi, tu vois. C'est-à-dire que le leader, déjà, moi, je le considère comme quelqu'un qui est élu par la communauté à laquelle il est en train de se situe. C'est-à-dire que c'est même pas lui, il s'est nécessairement mis dans cette situation lui-même, tu vois. C'est les gens autour de lui qui avaient besoin de lui, qui avaient senti en lui un sentiment de charisme, un sentiment de leader, en fait, qui est propre à tous les leaders, en fait, c'est le charisme. Ils l'ont élu pour le mettre dans cette situation, cette position, pour ensuite lui demander de mener à bien les idéologies ou bien les objectifs que le peuple, entre guillemets, se serait fixé pour eux-mêmes ou bien un peuple qui se sent, comment dire, lié d'une certaine façon aux idéologies que ce leader peut avoir au vu de leur avenir. Et dans ce cas-là, il est dans cette situation-là. Et donc, c'est là, de là que j'imagine que naîtrait, naquirait le concept de chef. Parce que j'imagine que le chef, en réalité, c'est quelqu'un qui est mis en place par le leader, d'une certaine façon, qui est mis en place par une autre entité. C'est d'où le fait qu'il instaure la peur, le sentiment de crainte envers lui. C'est parce qu'en fait, lui-même, il a cette crainte que la personne qui est au-dessus de lui sera déçue ou bien que les objectifs qui lui ont été fixés ne seront pas atteints réellement. Donc,
Et tu vois,
moi, je pense que...
j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit. Genre, tu as dit que le leader était désigné par genre, son équipe en réalité, dans la plupart des cas. Est-ce que ça veut dire que tu mets une dimension sociale à ce terme? En gros, est-ce que quelqu'un qui vient d'un milieu social différent du groupe dont il est à la tête peut être considéré comme un leader? Déjà, le fait que je le qualifie de leader, pour moi, ça veut dire que socialement, genre, je reconnais qu'il y a des similarités entre nos deux cas de vie. Parce que sinon, je me dirais qu'il est trop déconnecté de ma réalité.
C'est clair que quelqu'un comme Bérard Arnault, il va faire des donations, tu vas pas avoir l'impression que il comprend absolument, il va pas avoir l'impression qu'il comprend ce que tu traverses en tant que personne en besoin. C'est clair. Parce que vous vivez pas le même style de vie. Après, moi, je connais pas l'histoire
Même
personnelle
en
de
tant que
Bérard Arnault,
volontaire, tu vois.
etc. Même en tant que volontaire, enfin, en tant que personne dans le besoin, dans certaines situations, j'ai l'impression que passer outre l'aspect, comment dire, le passé ou bien le vécu des personnes qui sont volontaires pour venir t'aider, je pense que c'est le plus important, c'est plus de, je pense que leur priorité, c'est plus de s'occuper de leurs propres besoins, tu vois. Ou bien le fait d'être heureux qu'enfin ils sont remarqués par quelconque personne et ils ont une aide
C'est sûr,
qui leur
c'était
est
pour les personnes qui
subventionnée.
bénéficiaient de l'aide, ouais. Mais
Tu vois,
tout ça pour dire.
ça veut dire que leur interaction, en vrai, j'imagine qu'elle est plus limitée que ce qu'on peut imaginer. J'imagine que c'est plus les gens qui peuvent se permettre de donner, ou bien même pas nécessairement les gens qui peuvent se permettre de donner, les gens qui ont juste envie d'avoir ce voyage philanthropiste. Ils disent que, vas-y, je vais aller là-bas, juste avoir des conversations avec les personnes nécessiteuses, pouvoir même apprendre à les connaître, juste même avoir ce genre de conversation, ça peut vraiment aider une personne à changer leur vie radicalement, même pas une raison, même pas une force, une question de question financière. Et bien sûr, pour les premières nécessités, tu vois, les soins, la nourriture, le logement, etc. Ça, c'est les choses les plus importantes. Mais après, autre que ça, il y a aussi le côté social, comme tu as dit, tu vois. C'est-à-dire que ces personnes qui sont volontaires, ils sont pas seulement volontaires pour distribuer de la nourriture, des couvertures, simplement, tu vois. J'imagine que
Ça.
eux-mêmes, dans leur ils ont aussi le cœur nécessaire pour pouvoir avoir des conversations avec les personnes, les traiter comme des gens normaux, des personnes normales, tu vois. Juste c'est en fait, je pense que ce côté déconnecté, en fait, ça peut avoir un côté positif, parce que bon, après, si tu es déconnecté, tu vas voir leur pauvreté, et tu vas dire, ok, c'est leur faute qu'ils sont pauvres, mais qu'importe, mais si, okay, si t'en arrives à ce point-là, mais au moins fais quelque chose pour les aider, tu vois. Genre, ça, c'est, moi, je parle dans le contexte de Bérard Arnault. J'imagine que, vas-y, déconnecté, ils se préoccupent pas trop de leurs problèmes, ils disent que c'est leur faute, c'est un enfoiré si c'est le cas, tu vois, mais j'imagine que c'est quelque chose qui existe, tu vois. Mais dans la plupart des cas, j'imagine que les volontaires, c'est des gens admirables, tu vois. Genre.
Les volontaires, sûr, mais je parlais plus de la relation par rapport aux volontaires, puis les gens qui gèrent les associations, tu vois. Mais
Mais
mon point,
j'imagine que
c'était que.
les volontaires et les leaders, j'imagine qu'ils ont des relations plus ou moins proches. C'est-à-dire qu'ils peuvent sûrement avoir des moments là où ils ont des votes sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer la situation. Ils peuvent proposer des idées.
C'est pour ça qu'ils font un leader et pas un chef.
Ça, il faut un leader. Bah, en fait, il faut un peu de tout, tu vois, parce qu'une personne ne peut pas être responsable de toutes les choses, parce que c'est beaucoup de responsabilités, j'imagine, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de partager les tâches, d'une certaine façon, de partager les responsabilités. Comme ça, chacun gère à un côté, et puis si tu as besoin de faire une recommandation ou bien une prérogation, tu vas aller vers cette personne-là directement, au lieu de donner toute cette pression à une seule personne, tu vois. On va séparer entre différentes personnes, mais ça change pas l'efficacité du système, tu vois. Tu parles à une personne qui fait monter ton idée, et ensuite, il fait monter ton idée, ils en parlent, Ensuite, à ce moment-là, on gère du financement. Le financement, OK, on en est là, c'est là qu'on peut faire. Puis ensuite, le côté
Et si
exécutif,
tu mets un
OK,
chef, il te
je
faut
gère.
au contact direct de tes équipes. Moi, je pense que dans l'organisation de ton bail, genre, si au contact direct de tes équipes, tu mets un chef, il y a un problème. Pour moi, un chef, genre, si c'est bien fait, je suis d'accord avec toi, c'est complémentaire. Il faut une figure d'autorité dans une entreprise, parce que ce n'est pas les bisounours. Faut une figure d'autorité pour qu'il y ait de l'ordre dans les choses. Faut aussi la figure qui soit proche des équipes, qui connaissent la situation de chacun. Mais moi, je disais, si justement, dans cette organisation-là, au contact des équipes, tu mets un chef, puis c'est pas un leader, genre quelqu'un qui a. Quelqu'un, comme j'ai défini tout à l'heure, quelqu'un qui inspire le respect et pas nécessairement la crainte, je pense que ça crée un problème dans le fonctionnement parce que les équipes n'auront pas vraiment de repères à qui, genre, offrir des idées qui permettraient de faire développer les choses. Parce que si tu recrutes quelqu'un à la fin de la journée, c'est pour qu'il apporte ses compétences à ton entreprise. Mais forcément, s'il se sent limité parce qu'il ne peut pas s'exprimer sur tel ou tel aspect, parce que son chef l'inspire de la crainte, ben tu perds en compétences de cet employé. Donc c'est contre-productif.
D'accord, mais maintenant le chef en réalité, comment on l'a décrit en réalité, j'ai l'impression que c'était plus dans un contexte médiéval en fait, tu vois. Parce que ou bien médiéval ou bien de guerre. Dans un contexte d'entreprise, je pense pas que le chef ce soit quelqu'un qui inspire de la crainte nécessairement. Il peut, j'imagine qu'il y a différentes personnalités en tant que chef, mais c'est pas dans un contexte de bénévolat, je pense pas que c'est la crainte qui va être l'inspirer. C'est plus de la
Ah, bénévolat,
bienveillance.
peut-être que si. Mais en général, genre, de toute façon, le milieu associatif, c'est pas du milieu lucratif. Donc, si maintenant on parle
Exact.
des trucs pour faire l'argent, genre, moi je pense que la même personne peut porter les deux casquettes.
Il faut savoir se montrer ferme et en même temps savoir être créer des relations interpersonnelles avec ton personnel, c'est normal, mais après il faut savoir la limite.
Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'être un leader, c'est quelqu'un qui ne doit pas. Comment dire ça? Être un leader, ça ne veut pas dire que tu es laxiste aussi avec certaines choses, tu vois?
Non,
C'est
c'est tout
justement ça.
l'inverse. C'est tout l'inverse d'être un leader. Être
Ouais.
un
Et
leader,
c'est
ça
pour
veut
ça
dire
que.
que.
C'est ça. Et justement, c'est parce qu'on voit des similitudes dans les deux, genre, que tout de suite tu parlais de frontières. Moi, je pense que si justement on fait le récapitulatif des choses qu'il y a en commun entre ces deux notions, la première chose, c'est. Les capacités de gestion, des compétences de gestion. Il y a aussi le fait que les deux soient des visionnaires. Ça veut dire que tu sois un chef ou un leader, ça veut dire que tu as des compétences, tu es un visionnaire, tu arrives à reconnaître une opportunité, exploiter les ressources dont tu disposes, ou même aller chercher de nouvelles ressources pour atteindre un objectif. Tu vois?
Juste dans le contexte dans lequel on dit le chef il était en dessous du leader, c'est-à-dire que le chef c'est quelqu'un qui est employé par le leader pour mettre à bien ses objectifs à lui, c'est-à-dire que l'idéologie de base vient du leader qui ensuite il répartit les tâches entre différents chefs en qui il a confiance pour ensuite les répartir entre les autres membres du parti pour pouvoir faire évoluer la chose de façon bien. Comme ça lui il gère tout de loin et après les chefs ils gèrent tout de près d'une certaine façon. Et après, les employés, ils gèrent tout, entre guillemets. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est un système qui fonctionne, tu vois, parce que si tu es en contact, après, si tu es un leader, bien évidemment, tu vas être en contact avec tes employés de temps en temps, tu vas aller voir un peu comment ça se passe sur le milieu du travail, même si c'est dans un milieu lucratif, tu vois, juste pour faire preuve de compassion avec et d'empathie avec tes employés. Parce que, bon, il faut bien qu'ils sachent ce qu'il y a à la tête de l'entreprise. Pour qui est-ce qu'ils travaillent, leur donner la joie de vouloir travailler, qu'ils sachent que malgré le fait que tu sois le PDG, le CEO de cette entreprise, c'est pas pour autant que tu négliges la santé ou bien le bon fonctionnement le bon travail, le
Dans
bon
son
labeur de tes
rendement.
employés.
C'est le
Faut voir.
rendement ou rien.
Le rendement, oui, c'est-à-dire.
Non, c'est que le rendement d'abord.
Bien sûr.
C'est sûr.
Si c'est une entreprise, lucrative, c'est le rendement qui compte, concrètement. Mais après, si c'est une entreprise qui a pour vocation de faire des grandes choses, il y a aussi derrière il y a quelque chose d'autre aussi, tu vois, c'est-à-dire le rendement, c'est pour atteindre un certain objectif. C'est-à-dire, imagine que c'est une entreprise pour créer des navettes spatiales, tu vois. Genre, le rendement, certes, ça va être sur un côté lucratif, c'est du business avec le gouvernement qui veut aller à l'espace, blablabla, blablabla. Mais finalement, tu sais que chaque employé, il sait pourquoi il est là. Il est là pour essayer de faire avancer la science, avancer le gouvernement dans lequel qu'il représente, qu'ils ont signé en contrat pour amener des gens dans l'espace. C'est des responsabilités qui sont terribles. Et si les employés ils ont conscience des responsabilités qui sont liées au travail qu'ils sont en train de faire, c'est là qu'ils vont pouvoir donner plus de leur effort à travailler plutôt que simplement faire un travail à la chaîne comme Ford nous l'a montré à l'époque, avec juste tu mets un boulon, un boulon, un boulon, tu comprends pas nécessairement ce que tu fais, tu vois. Mais là, dans ce contexte-là, moi en vrai, c'est comme ça que je l'imagine. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de fonder mes entreprises totalement. Tu vois, sur un concept de tout le monde connaît l'objectif final qu'on s'est fixé, c'est pour vraiment aider le monde ou bien genre me faire avancer les choses. Et une fois que tu comprends le concept, là, je peux commencer à détailler les différentes étapes pour atteindre l'objectif final. Et après, tout le monde va pouvoir faire ce qu'il fait avec le sourire. Tu vois, ils vont être contents d'être là parce qu'ils font partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. Tu vois, c'est un peu ça, et j'imagine que la nature humaine est chère.
Mais tu sais, ça, c'est la base de tout ça, c'est la confiance, bro. Et puis, genre, pour commencer à illustrer un peu tout ce qu'on était en train de dire dans la première partie, genre, pour illustrer l'exemple de confiance, moi, je pense que, justement, c'est des notions qui se ressemblent tellement que la nuance va se jouer, genre, à comment tu fais la gestion des choses. Puis, pour revenir à la confiance, moi, je prends, par exemple, l'exemple de le micro-management. Tu vois, par exemple, une entreprise où... Chef, je vais dire le terme chef. Mon chef met en place un système de micro-management, par exemple, si tu travailles à distance, pour vérifier que ta souris n'est pas inactive pendant 5 minutes, tu vois. Ça, c'est le genre de truc que les exemples de micro, enfin, les stratégies de micro-management en général, ça met pas en confiance les employés, tu vois. Si tu dis à l'employé, OK, tu peux être flexible sur tes horaires. Tu peux être flexible, tu testes de vrai, tu peux commencer à travailler, mais je veux que tu sois là entre 9h et 15h. Tu vois? Tu peux dire à l'employé, OK, je veux que tu sois là entre 9h et 15h, mais le reste de ces heures-là, tu peux être flexible sur tes horaires. Je trouve que, honnêtement, hein, de ce que j'ai vu dans le milieu où je travaille, tu auras beaucoup plus de rendement que si chaque 5 minutes, genre, la souris de ton employé ne bouge pas, ça t'envoie une notification et tu es obligé d'aller lui dire, genre, gros, pourquoi ta souris ne bouge pas? Parce que ça va juste faire que. Les gens vont trouver des stratégies, genre, comment tu dis? Des stratégies sournoises, genre, pour contourner ton système de micro-management, pour te faire croire qu'ils sont en train de produire quelque chose alors qu'ils ne le font pas. Puis, à partir de ce moment-là où il n'y a pas le truc de confiance, ça vient un peu altérer la relation que tu as avec la personne qui est censée diriger les choses.
Je suis carrément dans la même optique. Le micromanagement, c'est quelque chose de, en fonction, bien évidemment, du rendement que l'entreprise est en train de chercher, c'est quelque chose d'assez excessif, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont la main mise sur absolument tout ce que tu fais, ils veulent contrôler chaque mouvement que tu fais, être sûr que chaque minute qu'ils sont en train de te payer, c'est une minute qui vont gagner 3 fois plus que ce qu'ils t'ont payé, etc., etc., tu vois, pour être sûr que le rendement, il est positif. Et c'est, comment dire, c'est dur. Mais après, j'imagine qu'en fonction du contexte dans lequel tu travailles, tu te rends compte que c'est une pression qui est soit nécessaire, soit nécessaire, tu vois, parce qu'on sait bien
Non, ça
que
dépend sûrement des équipes, hein. Comment?
sûrement, mais après, j'imagine qu'après, à la fin de la journée, l'entrepreneur, ce qu'il devrait regarder, la personne qui te supervise, c'est là, est-ce que le travail qui devait être fait est fait, malgré le fait que pendant les 5 minutes de temps dans lequel tu avais travaillé entre 9h et 15h, la souris n'a pas bougé. L'objectif, c'est que toi, tu puisses manager ton temps correctement pour pouvoir finir à temps le travail qui t'a été imparti. C'est ça l'objectif final, concrètement.
C'est ça.
Après, eux, ils ont trouvé cette technique-là pour essayer de mettre ça en vigueur parce que j'imagine que par le passé, ils ont eu des expériences là où les gens n'étaient pas nécessairement sérieusement en train de travailler sur ce qu'ils devaient faire, etc., etc. Ils ont dû implémenter un système supplémentaire, faire ceci, faire ce. Bon, après, je comprends, c'est l'évolution de l'entreprise, je sais pas ce qu'elle a traversé, etc. Peut-être que c'est le fait que aussi c'est une industrie dans laquelle les gens ils sont, comment dire, c'est pas nécessairement des professionnels. J'imagine qu'ils engagent des amateurs, des nouvelles personnes dans l'industrie qui ne connaissent pas nécessairement le travail, donc ils sont obligés de forcer sur un point pour essayer de faire en sorte qu'ils apprennent au plus vite possible les rouages du travail, tu vois, en mettant cette pression supplémentaire sur eux, parce que j'imagine que d'une certaine façon c'est comme ça qu'on pourra faire la part des choses entre les meilleurs travailleurs et juste les bons travailleurs. De toute façon, ce sont ceux qui travaillent sans arrêt, qui sont à 100% intéressés dans le travail qu'ils font, au point où ils n'ont pas besoin de prendre 5 minutes de pause sur leur truc. Ils peuvent juste continuer à travailler. Parce que j'imagine qu'ils ont eu l'expérience de personnes qui sont comme ça, des génies, entre guillemets, à défaut d'avoir juste des personnes lambda. Mais bon, c'est dur. Je le conçois pour les salariés qui, concrètement, ils font le travail qu'ils sont censés faire, juste qu'on leur met une pression qu'ils n'ont pas, dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Et je le comprends tout à fait. Et toi, tu proposerais quoi, du coup, pour pouvoir faire en sorte que le travail dans l'environnement dans lequel tu es puisse te passer d'une façon
Si t'as à ce point pas confiance
sécurisée?
à tes employés pour surveiller qu'ils bougent leur souris chaque 5 minutes, genre juste fais pas de travail à distance, je pense.
À distance, je comprends, mais est-ce que c'est un système qui avait seulement été mis en place une fois que le travail à distance avait été instauré, ou bien même une fois que tu étais sur le lieu du travail,
Les gens
c'était...
que je connais qui ont eu ça, ouais, c'est genre quand il y a eu les trucs de télétravail, la vague est arrivée de télétravail. J'en connaissais certains, ils travaillaient dans des entreprises comme ça. Ou genre, quand ta souris bouge pas, ça genre, il y a un logiciel qui est installé sur ton PC pour vérifier que ta souris bouge.
Je vois. Et tu penses que c'est justifié ou pas, ce genre de
Honnêtement, juste fais
système?
pas
Parce
de
que
télétravail alors. Moi, c'est juste ça que je me dis.
je comprends. Mais après, si tu regardes ça d'un point de vue budgétaire, le fait de faire ça en télétravail, ça économise énormément d'argent aux entreprises, et puis ça, enfin,
Ça, c'est
outre
vrai pour
et
les
d'autres
entreprises qui
facteurs
n'ont pas de
également.
bureau.
Exact. C'est-à-dire que c'est bénéfique pour eux. Même si c'est compliqué pour les salariés, c'est bénéfique
Ouais, mais
pour eux
si
de le
t'es.
mettre en
On parle
télétravail.
d'une start-up, si t'es genre
Mmh.
une tarée, la multinationale tech, genre.
Tu
N'économise pas
penses
sur un loyer
que
de bureau, genre.
tu penses
T'économises pas
tu,
quoi.
tu, tu, tu penses que tu penses que les multinationales n'ont pas besoin d'économiser sur le bureau, sur le
Ils
loyer,
ont besoin
sur
d'un bureau dans tous les cas.
l'électricité?
Donc, il y a des employés dans le
Oui,
bureau ou
pour
pas, ils vont
officialiser.
louer un bureau.
Mais ils sont pas obligés d'avoir 3, 4, 5, 6 bureaux. Ils peuvent juste en avoir un pour représenter l'entreprise, avoir un endroit, comment dire, un QG, entre guillemets. Et puis ensuite, le reste, c'est vous à vos propres frais qui payez, votre wifi, votre électricité, votre confort, tout ça. Et eux, tout ce qu'ils auront à faire, c'est investir dans un logiciel. Je pense que sur un
Crois
point
pas
de vue
qu'il y ait beaucoup
budgétaire,
de gens qui
c'est...
fonctionnent comme ça, parce qu'il y a un risque que tous les employés viennent le même jour au bureau.
Ok, mais ok, ah ok, donc ça veut dire que le système comme on l'a mis en place, c'est même pas un système contrôlé en sens de combien de personnes vont rester au bureau, combien de personnes seront, c'est pas des tours qui sont donnés, c'est vraiment
Non, il n'y a
sélectif,
pas de tour.
c'est
Non,
vraiment les employés qui choisissent ou pas de venir au bureau.
non, non. Ouais.
Ok, bon.
Ça, yo, il y a un autre exemple qui s'est passé récemment. Je sais pas si tu as suivi le truc de OpenAI, les trucs de ChatGPT, tout ça. Il y
J'ai entendu parler
a
de ChatGPT.
le CEO de OpenAI, un vendredi, enfin un samedi matin, on a appris qu'il s'est fait licencier suite à une décision du conseil d'administration. Alors que, je crois que c'est sa boîte OpenAI à la base, non? Enfin, en tout cas, il est là depuis le début. Je sais pas vraiment si c'est sa boîte ou pas. Donc, il s'est fait licencier de OpenAI. Puis le jour qui a suivi, il y a genre une pétition des employés, enfin genre je crois 100 ingénieurs qui étaient là depuis le début du projet, qui ont signé une pétition pour dire qu'eux aussi vont démissionner. Puis dans le même week-end, il a été renvoyé et réembauché au même poste, le CEO. Et moi, je vois ça en mode un truc de leader, parce que si des employés. Après, je connais pas les dessous du tout du dossier. Hein. Ça se trouve, il y a des gens qui ont été contraints de signer la pétition en question. Moi-même, ça a été discuté récemment. J'ai vu un truc passer sur ça. Mais dans un monde où personne n'a été contraint de signer la pétition et que chaque employé de bon cœur a décidé de dire, écoutez, si vous renvoyez le CEO, moi aussi je pars. Je pense que c'est un exemple fort de leadership.
Je
Que
suis
des gens
absolument
soient
d'accord.
prêts à sauter avec toi.
Non, en fait, c'est un peu clé. Ça veut dire que la personne elle a dû les inspirer, en vrai. Faut les mettre en bon gars. Ou bien la façon dont on l'a licencié, les gens, ils en ont été témoins, ils ont su que c'était injuste et que que si ça peut arriver à cette personne aussi haut placée, autant que ça m'arrive à moi aussi.
Puis tu vois qu'on fait un peu le parcours de tous les gens. Moi, je sais pas. Si je te demande, par exemple, cite un nom de leader, j'en sais quel nom qui te vient tout de suite.
Non, je ne peux pas donner le nom de mon père comme ça. Moi.
Non, mais tu connais, genre, à part les membres de notre famille, bien sûr. Je veux dire, quelqu'un, enfin, je veux dire, quelqu'un que tu trouves inspirant, que tu trouves le parcours inspirant.
Je trouve le parcours inspirant. Oui, en tant que leader, c'est ça. Franchement, il faudrait que tu
Bah,
reviennes
tu
à moi
vois.
avec cette question. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu. Parce que maintenant que j'y pense, en réalité, moi, c'est les vilains de l'histoire qui m'inspirent le plus. C'est pour ça que je
Oh,
préfère me réfréner d'avoir un commentaire qui peut être perçu comme négatif.
moi, par exemple, genre, je suis pas un expert dans tout ce qui est mouvements sociaux, etc. Une personne que je me suis intéressé à son histoire, c'est genre Mandela. Et Mandela, moi, j'arrive à faire la part des choses entre la personne et ce qu'elle a accompli. Ça veut dire Mandela, il a sûrement fait des travers dans sa vie. Je suis pas là pour le vanter en tant qu'être humain, mais par contre, il a fait genre pour faire bouger les populations, pour revendiquer leurs droits, etc. Moi, je trouve ça c'est très inspirant pour moi. Puis quand je retrace le parcours de tous les gens que je considère comme inspirants en termes de leadership, puis enfin ce qui est dans la culture populaire, genre les leaders inspirants ici, je trouve une sorte de genre un pattern, tu vois, une sorte de schéma que je peux désigner pour toutes ces personnes-là. C'est comme si initialement, c'est des gens qui ont su reconnaître au sein d'une communauté dont ils appartenaient quelque chose qui pouvait faire progresser. Tu vois, je prends l'exemple de, je sais pas moi, une entreprise genre, enfin je vais encore parler de tech parce que c'est mon domaine. Et je te prends l'exemple des personnes comme Zuckerberg ou comment il s'appelle Bill Gates ou tous les boucs qui ont fait des trucs dans la tech là. À la base, c'était des gens qui avaient une vision avec des gens du milieu tech. Ils ont fondé un produit et c'est devenu des entreprises à plusieurs milliards de dollars. Mais je veux dire, quand tu regardes les origines, genre l'histoire originelle de ces projets-là, c'était des gens passionnés et qui étaient au sein de la communauté techno. Ils ont vu quelque chose qui manquait, qu'ils voulaient faire développer. Puis au sein de cette communauté-là, ils ont réussi à créer quelque chose. Puis c'est comme si dans tous les domaines, je reviens encore, je fais le parallèle justement de Zuckerberg ou Mandela. Que Mandela, dans la difficulté que sa population traversait, il a su reconnaître une injustice que avec les autres, genre grâce aux autres, il voulait réussir à ne pour les générations futures, genre ce soit plus quelque chose que les générations futures aient à vivre. Puis ça part, tout part en fait de qu'est-ce que moi et les autres on peut faire ensemble. Je trouve que j'en viens là parce que le sujet que le collègue avait donné, c'était la mentalité des chefs. Puis moi, je vais dire plutôt la mentalité des leaders. La mentalité des leaders que moi, je pense, c'est des gens qui arrivent à reconnaître des forces dans leur communauté. Et nous, ici, dans The Loop, on aime bien dire, ouais, on aime bien être au service, enfin, au service. Pouvoir toujours être des personnes ressources pour les autres, pouvoir toujours voir de la bonté aux gens, pouvoir toujours apporter quelque chose de positif dans le monde. Puis, vraiment, être dans cette mentalité-là, être dans le fait de toujours ne pas être fermé aux autres, ne pas être fermé à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui veut te partager quelque chose, même sans forcément demander quelque chose en retour. Ça permet de monter ce genre de relation, tu vois, je trouve. Puis de là, ben, la suite logique, c'est que tu arrives à être au sein d'une communauté, à proposer quelque chose, tu vois quelque chose. Ça, c'est la partie visionnaire dont je parlais tout à l'heure. Au sein d'une communauté, tu as une vision de ce que tu peux faire avec ce groupe de personnes-là. Au final, tant que tu as les gens qui sont derrière toi, tu as toutes les ressources qu'il te faut. Moi, je pense dans la vie, il y a trois grandes ressources. Le temps, que je dis des bras, mais c'est les gens autour de
La force.
toi, puis la santé. Voilà. C'est le temps, la force et la santé. Ces trois choses-là, moi, je pense qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas accomplir.
C'est vrai que c'est un mélange de toutes les meilleures choses en réalité. Enfin, c'est quelque chose dont tu as besoin. Il y aurait quoi d'autre sinon? C'est des choses futiles que tu voudrais rajouter à ça, des choses qui sont venues encombrer ces trois choses, tu penses que ça consisterait en quoi alors?
Ah, puis d'un autre côté, arrive qu'il y en ait, qu'il y en a qui ont eu des déclins. Et en off, je te parlais que. Ouais, t'en as qui ont des exemples de leaders que jusqu'à aujourd'hui, ils sont. C'est quoi le terme plébiscité? T'en as que c'est des exemples inspirants, charismatiques de l'histoire. Ah, ça a été des leaders, on s'inspire de leur histoire, etc. T'en as aussi, à la base, c'était des leaders, puis au final, ils sont devenus des bourreaux pour leur société, pour leur communauté. T'en as que, à la base, ils étaient là pour faire du bien. Justement, c'est ça où je voulais discuter avec toi, parce que chez toi, tu as des avis tranchés souvent là-dessus. C'est. Est-ce que tu penses qu'une fois que tu as atteint. Alors, qu'est-ce qui peut te changer en tant que personne? Genre, si à la base, tu voulais faire du bien pour les tiens, pour les autres, genre créer quelque chose d'innovant, créer quelque chose de, je sais pas, au service des gens qui peut faire avancer les choses, qu'est-ce qui peut faire que tu vires complètement et tu deviens un danger pour les autres? Parce qu'il y a eu des exemples comme ça. Il y a eu des gens que c'était des bons pour leur pays. Je ne vais pas citer des présidents ici parce que tout le monde connaît les exemples. Mais tu as eu des gens que, historiquement, c'était des bons, etc. Puis au final, avec le temps, c'est devenu des gens que les gens aimaient plus. Parce qu'il faisait que du mal, enfin que du mal. Il faisait plus de choses négatives que positives avec le temps. Donc, toi, tu penses, c'est quoi les facteurs qui peuvent venir influencer comme ça une personne qui part dans ce truc de leader-là, puis qu'au final, ça vire au drame un peu?
Je ne vais pas te mentir, le premier truc auquel je pense, moi, c'est l'ego des gens, en réalité. Ou bien la peur de vouloir entrer en compétition avec quelqu'un d'autre, ou bien la peur de plus pouvoir innover, ou bien l'envie de vouloir rester séparé tout le temps, la peur du changement. Je pense que ça, ce sont le genre de facteurs qui peuvent venir nuire à quelqu'un qui, de base, est un bon leader, bon, ceux qui deviennent juste quelqu'un qui est has-been. Je pense que c'est ça la plus grande crainte d'un leader en réalité, genre, c'est le fait que finalement on l'oublie, tu vois, que ce qu'il dit, ce qu'il fasse n'ait plus aucune valeur. Je pense que concrètement, la crainte principale d'un leader, en vrai, ce serait ça, genre. Et puis, la seule chose qui peut te mener réellement à ton désarroi en réalité, c'est toi-même et les limites que tu t'imposes. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple parfait, ce serait la personne qui avait créé la compagnie BlackBerry. Par exemple, celui qui me vient en tête, en réalité. Il avait créé quelque chose de spectaculaire, magique. Il a eu son moment de gloire pendant, quoi, 5, 10 ans, 12 ans. Puis ensuite, quand elle a fait face à Steve Jobs, le créateur de Apple, il n'a pas su comment faire face à la concurrence, et puis il a voulu rester, comment dire, dans le jugement d'un nouveau produit au lieu d'essayer de saisir une opportunité pour voir lui-même évoluer dans quelque chose qui aurait pu être grandiose. Mais en fait, il a décidé de rester imbu de lui-même. Mais certes, c'est essentiel d'avoir une confiance sur soi-même, mais il faut quand même savoir avoir confiance en soi, c'est aussi savoir accepter ses limites des produits ou bien des services ou bien des efforts qu'on est en train de mettre en place. C'est aussi de savoir que malgré le succès qu'on peut avoir sur une chose, on peut en avoir plus sur une autre chose qui est différente, et avoir, comment dire, confiance en le fait qu'on est prêt à faire ce pas en avant, aller de l'avant avec l'équipe qui est derrière nous pour pouvoir créer des choses encore plus grandes, tu vois. Parce que j'ai
Et ça,
l'impression
c'est
que
pas
c'est ça
la
qui a mené
différence,
à cette vidéo.
justement. Ça, c'est pas la différence entre un bon entrepreneur puis un entrepreneur, je vais dire, débutant. C'est, genre, pour moi, enfin, tu me diras, mais moi, je pense que si tu es entrepreneur, que tu proposes une solution ou un service, et que dans la concurrence, tu vois quelque chose de nouveau, moi, je me dirais que le bon entrepreneur, plutôt que de se dire, ouais, non, il n'y a rien à regarder là-bas, le bon entrepreneur se dirait, avant d'être vendeur d'un service, je suis utilisateur du service en question. Donc je vais me renseigner sur ce que la concurrence est capable de faire pour voir s'il n'y a pas quelque chose à améliorer dans ce que moi je propose. Pour moi, je me dirais que c'est ce qu'un bon entrepreneur pense.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire, bien évidemment. C'est juste que il y a certaines
C'est
personnes
bizarre en
qui.
même temps que ça veut dire, tu réalises, ça veut dire que. Parce que si tu as pu monter une entreprise comme BlackBerry, ça veut dire qu'en soi, tu es un bon entrepreneur. Parce que ce n'est pas juste un coup de chance pour atteindre ce genre de chiffres. Ça veut dire que tu es un bon entrepreneur, mais que ton ego est tellement grand que ça a venu altérer même dans tes compétences. C'est fou.
Effectivement. C'est simplement exactement ça. Parce qu'en fait, quand à un moment où Steve Jobs il est arrivé avec son lui, il était déjà au top market. Quoi. Il dominait tout. Donc il disait que qu'importe ce que la concurrence fait, ça ne peut pas venir entraver le succès que je me suis déjà fait. Alors il n'a pas vu. En fait, il a fait son erreur à lui, en vrai, c'était de ne pas voir Steve Jobs comme une concurrence. Il n'a pas respecté le talent et l'énergie que Steve Jobs avait mis dans le produit qu'il avait proposé aux consommateurs. Et c'est ça qui lui a fait défaut, en fait. C'est sur cet excès de confiance en ce qu'il avait déjà créé. Même si c'est une bonne
Mais
chose, alors que je crois que c'est.
tu penses que les chefs,
Ça,
c'est des
je pense
gens
que.
qui, dans leur mentalité, genre, les chefs, c'est des gens qui ont aussi une partie qu'ils utilisent les gens. Genre, tu penses que être un bon chef, tu dois être foncièrement, genre, transparent et honnête. Genre, faut pas un peu de utiliser. Mais quand je dis utiliser les gens, c'est ce que tout le monde fait. Mais je veux dire, aller jusqu'à utiliser les gens dans un cadre où ça peut les nuire légèrement, genre.
Sur un plan éthique, j'ai envie de te dire que si tu es prêt à nuire aux gens, ça veut dire que ta place n'est pas nécessairement dans un endroit là où tu peux atteindre les consommateurs. Si ton objectif en tant que vendeur ou bien créateur de produits, dans le sens où tu es en train d'innover quelque chose, c'est que ça soit, que ça ait un effet négatif sur la population, c'est que tes motivations ne sont pas les bonnes. Je dirais ça d'un point de vue éthique.
Mais
Mais
tu penses pas
si
que
je devais.
justement les gens comme tout à l'heure on parlait des économies des multinationales. Tu penses pas les gens comme Amazon, tout ça, c'est des gens qui sont à fond dans l'optimisation. Ça veut dire ils vont aller optimiser la moindre dépense pour faire le plus de max de rendement. On parlait de rendement, plus de rendement possible avec les ressources qu'ils ont. Mais justement, est-ce que aller jusqu'à autant optimiser, c'est pas au détriment du bien-être des employés, genre? C'est pas ça être un bon leader, finalement, c'est genre aller sacrifier une partie du bien-être de ses employés pour atteindre ses objectifs. Enfin, là, je parle de leader, je parle plus de chef d'entreprise en réalité, c'est très spécifique.
Dans le cas des chefs d'entreprise, leur objectif à eux, c'est simplement augmenter les chiffres, réduire les dépenses, augmenter les bénéfices.
Ça veut dire que tu
C'est-à-dire
perds un
qu'eux,
peu
ils
de ton
voient,
humanité, un peu, non?
d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est inévitable. Surtout à partir du moment où tu n'es pas nécessairement en contact avec les employés, tu ne sais pas nécessairement comment ça se passe, etc., etc. Tu n'es pas réellement dans la dynamique d'un employé, parce que c'est le cas pour beaucoup de chefs d'entreprise en réalité. Beaucoup de chefs d'entreprise n'ont jamais soulevé un marteau, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont jamais serré des pneus, vissé des trucs, rien du tout. Tu vois. Ils voient ça juste d'un accès numéraire uniquement. Ils sortent de leurs universités, ils sortent de leurs grandes écoles, et puis ils se mettent dans des positions de pouvoir automatiquement sans nécessairement connaître les difficultés que peuvent traverser les employés lambda, entre guillemets. Donc directement, ils arrivent sur un plan de pouvoir sans nécessairement connaître le poids que portent les personnes qui sont sur qui ils ont le pouvoir. Donc ils peuvent faire des mauvaises décisions sur ce plan-là juste parce qu'ils ont eux-mêmes la pression. La seule pression qu'eux, ils connaissent, c'est la pression de faire plus d'argent. Faire plus d'argent pour la compagnie, pour pouvoir gagner en placement dans la compagnie. Alors que les employés, ils cherchent seulement à faire des sous au jour le jour pour pouvoir nourrir leur famille, tu vois. Leurs objectifs, fondamentalement, ils sont différents. Eux, ils ont déjà des acquis. Tu vois, ils ont déjà une richesse, etc., etc. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est accroître cette richesse-là. Ils cherchent pas à créer du bien-être ou bien quoi que ce soit. Généralement, je parle d'un point de vue vraiment général, genre numéraire. Même s'il y a des exceptions, bien sûr, tu vois, mais. Dans un point de vue général, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, ils sont un peu déconnectés un petit peu de la souffrance que les employés peuvent traverser. Donc, je peux comprendre que Amazon, tout ça, qu'on est job et tout, que ça puisse être compliqué pour leurs employés de gérer cette pression. Parce que concrètement, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils traversent. Mais bon, un bon leader, il saurait que il comprendrait la difficulté des tâches qu'il demande à ses employés. Il ferait en sorte de les ménager d'une certaine façon. Tu vois,
Ouais,
il ferait
genre,
en sorte
en gros,
de.
ça sera le même rythme de travail, mais il va faire passer la pilule différemment. Ouais.
Exactement. C'est littéralement, réellement ça, la différence entre le chef et le leader.
Genre, il fait attention, un leader, ça veut dire qu'il ferait attention à la perception que les employés auront de la charge de travail, en gros.
Exactement. Et le fait de travailler là-dessus, c'est le plus important en tant que leader. C'est que leur. Oh, j'ai pas. C'est pas un environnement dans lequel genre en mode tu mens ou quoi que ce soit, c'est juste tu embellis la réalité. Parce que réellement, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre que leur vie, c'est du caca, tu vois. Ils préfèrent entendre que leur vie, elle est magnifique, qu'ils sont là où ils en sont dans la vie, que c'est le meilleur endroit là où ils peuvent être, tu vois. Si tu arrives à pouvoir et relayer ce message-là, t'as tout gagné. Et je parle même pas juste d'un point de vue d'un. Ouais, c'est le point de vue d'un leader, simplement. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire avancer les choses, tu vois. Parce que si tu les laisses se focus uniquement sur le côté négatif du travail, le fait que c'est toi qui choisis les répétitifs, etc., etc., tu perds. C'est pour ça que tu vois dans le Silicon Valley, les entreprises là-bas, ils mettent des coins de repos, ils te font travailler dans un environnement là où tu es à l'aise. C'est pas comme si tu étais dans un environnement de travail, tu vois. Ils te mettent dans un environnement comme si tu étais chez toi. Tu vois, tu te lèves, il y a une table de ping-pong par ici. Outre le fait que leur salaire est exubérant, tu vois. Alors, il y a aussi le confort au milieu du travail, tu vois. Alors, un environnement amical, le contrôle qu'on leur met n'est pas aussi terrible que ça, mais simplement, ils font leur travail parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la position qu'ils ont dans cet endroit-là, tu vois. Ils savent
Ouais, et puis
que
c'est aussi,
on leur
on te
donne.
met tout au bureau, ils se permettent de tout mettre au bureau parce que c'est pour te donner envie de rester plus longtemps au service.
Exactement, il y a tout qui est
Pour
disponible
te...
sur place, il y a à manger, tout ça. Mais après, à partir du moment où tu as une famille, etc., c'est à ce moment-là que il y a d'autres facteurs qui sont mis en jeu, etc. Et puis c'est compréhensible, tu vois. Un jeune, généralement, les gens qui vont travailler dans le Silicon Valley, c'est des jeunes, ils n'ont pas d'enfants, leur famille, c'est des étrangers, c'est-à-dire que leurs familles ne sont pas nécessairement sur place. Tout se fait par Internet, Skype, WhatsApp, etc., etc. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de quitter le lieu de travail aussi souvent que ça. Ils ont juste à maximiser les sous. Et en plus, la plupart du temps, les gens qui sont dans ce genre d'environnement, ils ont prié jour et nuit pour pouvoir y être. Donc,
C'est
le jour, ils y
fort,
sont. Exact. Donc, le jour, ils y sont, ils font tout pour y rester.
c'est une
Jusqu'à ce que,
prison dorée.
finalement. Enfin, c'est ça le concept, en réalité. Mais je sais pas si je serais d'accord pour dire que c'est une prison dorée. Parce que, concrètement, t'es pas enfermé. Tu vois.
Ah,
Genre.
t'es pas enfermé, cette façon de parler. Ouais.
Tu vois, c'est pessimiste, c'est péjoratif de ouf de voir ça comme une prison dorée parce que c'est plus une couronne en plume, genre, tu vois, concrètement. Dans ma tête, je le vois un peu comme ça, genre, parce que t'as l'impression que t'es le roi de tout, mais réellement, genre, un coup de vent et tout disparaît, tu vois. Mais c'est pas pour autant que c'est pas réel, tu vois. C'est réel, mais c'est une illusion. C'est pas nécessairement
Ouais,
toi qui portes la
c'est
couronne.
comme le petit piège à souris, on te met un bout de fromage, au final t'as le fromage, mais t'es enfermé.
Voilà, mon gars,
Les
tu
deux.
dégustes pas.
Les deux. Ah, ok. Vas-y, je crois qu'on va clôturer sur ça, le ref. Genre, franchement, la discussion a duré plus que je pensais. Il y a eu des choses à dire. Et même, je pense qu'il y aurait eu plus d'exemples si on avait essayé de parler plus, d'illustrer plus, mais je crois. Nous, on aime bien discuter des notions, etc., plus que des exemples, souvent. Si c'est le genre d'épisode, je crois le dernier épisode là qui est sorti justement, qui était très dans l'exemple, c'est l'épisode de la rancœur. C'était beaucoup dans l'exemple. Donc là,
Exact.
c'est l'occasion de changer un peu le format. Et puis, dites-nous. Que vous pensez des définitions qu'on a données, si vous avez d'autres exemples. Moi, je trouve l'exemple le plus récent, le truc de OpenAI, là, c'est choquant. Je vais aller faire des recherches sur si vraiment les employés étaient prêts à sauter pour lui, mais je trouve ça assez fort. Puis, Oh. Que tu avais d'autres choses à dire, sinon ça va arrêter sur ça.
Non, franchement, je suis satisfait de l'épisode et puis on se retrouve la prochaine, ma famille.
Vas-y, merci la famille, merci de nous avoir écoutés. Force à tous ceux qui sont restés jusque-là. Et force à tous ceux qui ont entamé le jeûne, tous ceux qui finissent le jeûne bientôt aussi. Comme ça, on englobe tout le monde. Et voilà, rendez-vous au prochain épisode.
Ciao.